Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
L'écrivain, on le sait, est un révélateur, un passeur de mots, d'idées, d'émotions, celui qui établit des liens à travers le temps et l'espace, mais qui pourtant peut tomber dans l'oubli, cette bête noire de tout créateur. Le hasard ou peut-être le destin va procéder à la rencontre d'un homme et d'un livre et opérer des changements profonds et même vitaux dans la vie de deux personnes. L'écrivain existe-t-il sans le lecteur? Question à débattre. Ici, c'est lui, le lecteur, qui va redonner vie à un ouvrage méconnu ou que le temps a effacé. Cet ouvrage, pourtant, trouve dans ce lecteur de profondes résonances. Il va entreprendre alors une véritable enquête pour que les incertitudes autour de l'œuvre et de son auteur se lèvent peu à peu et que leur soit rendue une forme de justice. Ce passant incertain est à la fois auteur et lecteur qui se confondent comme dans un miroir. Et il est le titre du roman de Jean-Yves Lorichès, édité chez Le Temps qu'il fait. Jean-Yves Lorichès, bonjour.
Bonjour.
Voilà, l'écrivain et le lecteur. Ça, c'est intéressant d'aborder déjà ce domaine-là. Votre roman est d'abord l'histoire d'une alchimie subtile entre un écrivain et son lecteur, ou entre le lecteur et son écrivain.
Oui, j'ai toujours été fasciné par les écrivains oubliés. Je ne sais pas si vous voulez déjà qu'on parle de cette question-là, de l'oubli, ou si vous prévoyez pour un peu plus tard, mais je crois qu'on peut difficilement ne pas en parler un peu tout de suite, parce qu'effectivement, c'est le lecteur, et généralement le lecteur d'auteurs reconnus, soit célèbres de nos jours, soit étant entré dans la postérité. Et en même temps, j'ai toujours été fasciné je suis quelqu'un qui fréquente, comme tous ceux qui aiment la littérature, les librairies de livres anciens. J'aurais été fasciné par les livres complètement oubliés, parce que on a l'impression qu'ils attendent quelque chose du lecteur qui passe et qui souvent passe sans les voir. Donc c'est une forme particulière de rapport à la lecture.
Alors est-ce que vous avez découvert un livre jaune comme celui qui bouleverse le narrateur?
Alors effectivement, non, c'est imaginaire, c'est une invention, ce livre. Mais en revanche, j'ai souvent été fasciné par ce qu'on trouve sur les pages, les quatrièmes de couverture de ces livres, effectivement, défraîchis, souvent datant des années 20, des années 30, ou parfois plus anciens, qu'on trouve en très grand nombre dans les librairies d'occasion, et qui sont complètement oubliés, mais ou alors qui sont des livres la postérité a reconnus, mais sur les quatrièmes de couverture, on trouve des listes d'ouvrages parus en même temps, et qui, eux, ne nous disent absolument rien. Et je me suis toujours dit, parmi ces ouvrages-là, il y a peut-être un ouvrage qui vaudrait la peine d'être lu, et puis même si ils ont été oubliés peut-être à juste titre, c'est quand même là aussi que s'est passée la littérature, et c'est quelque chose que je trouve à la fois troublant, émouvant, et en même temps un peu mélancolique aussi, parce que des œuvres qui ont compté pour ceux qui les ont écrites, qui ont compté même sans doute pour certains lecteurs, on l'espère, à l'époque, et qui en même temps n'arrivent plus jusqu'à nous aujourd'hui.
Est-ce que il est important pour un écrivain dont vous êtes d'avoir ce sentiment de complicité, de rencontre?
Oui, je crois que quand on écrit le dialogue avec les prédécesseurs, avec souvent les grands prédécesseurs, ce que René Char appelait les grands astreignants, c'est-à-dire ceux qui à la fois vous donnent envie d'écrire, en même temps aussi sont très exigeants et peuvent être aussi très intimidants, qui peuvent inhiber complètement l'auteur, mais qui quand même, si on voit les choses positivement, sont aussi des ceux qui donnent envie d'écrire et qui nourrissent aussi l'écrivain. Je crois que ce rapport effectivement aux prédécesseurs, il est tout à fait capital. Enfin, je pense à la phrase de Julien Gracq, qui était un grand lecteur, comme on sait, et qui a beaucoup écrit sur ses lectures, et qui disait que les livres pousse sur d'autres livres et qu'il pousse sur, disait-il, l'épais terreau de la littérature. Donc il y a cette image végétale. Moi, c'est très important. Voilà, je ne pense pas qu'on puisse écrire à partir simplement de soi ou même de son époque.
Mais est-il important pour vous, par rapport à vos lecteurs, qu'il y ait comme ça ce sentiment de reconnaissance de votre activité créatrice, ça peut être une complicité également.
Alors le rapport au lecteur, je crois qu'il est Il se passe dans un second temps, en fait. Dans le temps de l'écriture, je ne pense pas qu'on puisse écrire en pensant à un lecteur particulier ou à des lecteurs particuliers. En tout cas, pas moi.
Oui, voilà. Parce que je pense qu'il y en a qui ont quand même une idée bien précise de la manière dont il faut vendre.
On peut cibler, évidemment, un lectorat, écrire ce qu'il est supposé attendre. Mais en ce qui me concerne, je crois que l'écriture est un processus vraiment intime, personnel, solitaire. Alors, bien sûr, c'est toujours quelque chose qui s'adresse, mais qui s'adresse un peu dans un lointain, bon, tout à fait indistinct. On sait pas à qui. Hein. Alors après, en revanche, une fois que le livre est écrit, les retours des lecteurs sont quelque chose de très important, parce que je crois que c'est ce qui fait exister le livre. C'est bien pourquoi il est si important de publier. Et Dieu sait que c'est pas toujours facile d'être publié aujourd'hui et peut-être à n'importe quelle époque d'ailleurs. Or, sans ce retour-là, je crois que quelque chose est incomplet, parce qu'en fait, on ne voit pas ce qu'on écrit. Oui. Je crois que on a beau se relire, moi je me relis énormément, mais justement, plus on se relit, plus on devient familier de son propre texte, on a du mal à prendre de la distance, et à ce moment-là, le retour du lecteur nous fait exister vraiment le livre.
D'où peut-être l'intérêt des salons du livre, des rencontres dans les librairies, c'est important.
Tout à fait, c'est lieu d'échange, moi je n'ai jamais refusé comme ça d'aller effectivement à la rencontre, même si certains ironisent sur le fait que voilà, les auteurs sont là pour vendre leurs livres et tout. Non, je crois que c'est autre chose. Ils sont là pour rencontrer des lecteurs réels. Ces lecteurs réels qui sont absents pendant le temps de l'écriture et dont on a besoin après.
Oui. Alors, là, l'histoire, qu'est-ce que se passe-t-il ? J'ai trouvé quand même, ce qui était intéressant, c'est que c'est un livre qui est découvert dans une librairie à l'ancienne. Oui. Et les deux librairies dont vous allez parler, c'est pas... J'allais donner des noms de ces supermarchés de librairies qui existent. Non, ce sont de vraies librairies à l'ancienne. Oui. Et là, le narrateur découvre un livre. Ce roman, de quoi s'agit-il ? Vous pouvez en dire un mot ? De qui est-il ?
Alors, c'est un roman d'un auteur qui s'appelle Paul Monestier, donc, qui est un auteur... que mon narrateur ne connaît pas, et pour cause, il est complètement oublié. Et son livre s'appelle « Le passant incertain », et non pas « Un passant incertain », qui est le titre de mon livre.
Voilà,
il y a cette petite
1935
différence. Voilà, c'est ça.
J'ai noté, entre guillemets, donc je vous cite, « faisant partie de la famille ».
Oui, alors c'est ça, c'est l'idée que, effectivement, même les livres... complètement sorti de la mémoire de la postérité, et Dieu sait que ça représente sans doute 90%, même peut-être plus encore, des livres. Enfin, c'est justement ce qu'on constate quand on regarde ces fameuses quatrièmes de couverture et ces listes de livres publiés en même temps que tel ou tel chef-d'œuvre. Je pense que ces livres-là, en même temps, ils sont la littérature, et ils sont la littérature dans un premier temps au même titre que les autres, et ensuite progressivement la postérité en retient certains, en oublie d'autres,
on redécouvre
certains, mais ça part de là, c'est-à-dire que c'est ça la vie de la littérature, c'est cela. Et je pense que quelque part les livres oubliés, et même ceux qui sont oubliés à juste titre, parce que il faut pas dire non plus que c'est toujours injuste que des livres soient oubliés, je pense que sans doute dans la plupart des cas ça s'explique par le fait que ils n'ont pas réussi à dépasser effectivement leur époque, c'est-à-dire ils disaient quelque chose peut-être à leurs contemporains, mais ensuite ils ne disent plus rien aux générations à venir. Mais même cela, ils contribuent à faire exister la littérature. Mmh. C'est ce que j'appelle la famille en quelque sorte. Ils font partie de la famille.
Quoi, voilà. Et puis il s'agit aussi de reconnaître le travail, le courage, l'implication.
L'implication
aussi,
voilà,
le fait de se dévoiler en partie. Alors là, il y a justement une rencontre. On a affaire à un lecteur passionné, le narrateur. Captivé, mais incapable, sur le moment, du moins la première lecture, de donner sur l'histoire des informations les plus élémentaires. Alors, j'aimerais que vous nous lisiez juste un extrait qui montre qu'il se passe quelque chose vraiment immédiatement. Alors, c'est à la page 14. Il y a une petite croix, voilà.
J'avais peine à me détacher du climat singulier du roman que je venais de quitter. Il en va toujours ainsi lorsque je suis pris, ce qui ne se produit pas très souvent et presque toujours par surprise. J'ai lu avec un intérêt mêlé d'ennuis diffus certains chefs-d'œuvre de la littérature que je me devais de connaître et qui n'ont pas troublé mon existence. Des livres moins importants que l'on m'avait chaudement recommandés souvent me sont tombés des mains. Mais il arrive parfois, indépendamment de la notoriété de l'auteur, qu'un livre résonne en moi si fortement que je ne peux reprendre une quelconque activité ou espérer trouver le sommeil sans l'avoir achevé. Tel était manifestement celui que j'avais posé sur le fauteuil et qui semblait m'attendre. Peu m'importait que l'auteur en fût inconnu, à vrai dire, ce quasi-anonymat jouait même en sa faveur, il n'avait à m'offrir que ses mots, aucune image de l'écrivain, aucune anecdote à son sujet, aucun commentaire ne s'interposait entre le texte et mes yeux qui de ligne en ligne y cheminaient. Cependant, si quelqu'un m'avait interrogé, j'aurais été incapable de donner sur l'histoire les informations les plus élémentaires.
Alors, ce qui montre que même le lecteur le moins prévenu, ce n'est pas le cas là, n'aborde jamais un livre d'une manière neutre, en fait. Hein.
Oui, alors là, c'est effectivement, bon, c'est quand même l'histoire d'une fascination. Hein. C'est-à-dire que là, ça va au-delà de ce que j'ai évoqué jusqu'à présent, c'est un petit peu le point de départ, c'est-à-dire c'est le sentiment, voilà, de curiosité, un petit peu aussi, curiosité un petit peu mélancolique à voir ces livres oubliés dans les bouquineries ou chez les bouquinistes. Mais là, mon personnage, mon narrateur, lui, il tombe vraiment plus que sous le charme. Il est tout d'un coup, de manière absolument imprévisible, hein, conquis par ce capté.
Oui.
Et avant même, finalement, quelque part, de l'avoir lu, puisqu'il il le sort du rayonnage alors qu'il ne se distingue en rien des autres livres, puisque précisément l'auteur et le titre sont complètement oubliés. Et il le sort et il ne commence même pas à le lire dans la librairie. Il l'achète, il ne sait pas pourquoi il l'achète.
Oui.
Et
oui.
Quand il le lit, après, effectivement, il est totalement conquis.
Oui. Oui, et alors même, il découvre qu'il y a une audience presque nulle, et ça le soulage, réservé pour moi seul.
Oui, voilà, alors tout à fait, il y a une espèce de relation aussi exclusive qui se noue entre le narrateur et ce livre, et à travers ce livre, évidemment, son auteur, qui est aussi un passant incertain, qui est un fantôme, qui est quelqu'un, à travers le livre, c'est aussi cet auteur qui le fascine.
Oui, parce qu'il y a quand même beaucoup de correspondance entre l'écrivain et le narrateur. Le narrateur parle d'échecs successifs dans sa vie privée. On a ce sentiment que ce qu'il retrouve dans le fond, c'est cette solitude chez cet être.
Oui, une sorte de fraternité qui se noue alors même que le narrateur ignore tout de l'auteur, parce qu'effectivement il n'a réussi à trouver à peu près aucune information en faisant une recherche sur Internet, comme on ferait tous dans un cas pareil. Mais précisément ça n'a pratiquement rien ramené, à part effectivement une édition dédicacée qu'il va se procurer et qui va peut-être l'orienter vers et puis un petit article aussi, voilà.
Et dans le fond, c'est ce secret, cette forme de solitude chez l'écrivain qui le conquiert. Il a peut-être un goût d'exploration, mais une forme aussi. Alors, il dit en parlant de lui à un moment donné, plus doué pour la rêverie que pour l'introspection. Et dans le fond, ce qu'on trouve chez l'auteur lui-même du roman qu'il vient d'acheter, une forme de fuite. J'essayais de voir les correspondances
Ce sont des êtres probablement de fuite. Enfin, le narrateur lui-même, effectivement, est quelqu'un qui est plutôt, en tout cas, solitaire, ou en tout cas dans une période de sa vie où il est solitaire et où il cherche comme ça un peu les marges de la vie réelle. Enfin, c'est pas pour rien que effectivement il s'aventure dans cette librairie un peu elle-même déserte par une journée trop chaude. Donc il y a une manière de se faufiler un peu dans des failles de la réalité, et sans doute pour fuir quelque chose, on ne sait pas très bien quoi, mais et probablement le Paul Monestier, donc l'écrivain qu'il découvre, il devine en lui quelque chose de proche, de fraternel.
Ma deuxième lecture fut différente de la première, mais sans aucune forme de déception. Moins emporté par la découverte, je fus seulement plus attentif à certaines inflexions du style qui ouvraient dans le texte de facture par ailleurs classique, de secrète fêlure. L'histoire, car il faut bien à présent que j'essaie d'en rendre compte, est celle d'un homme en apparence sans histoire, simple fonctionnaire au cadastre municipal d'une petite ville du centre de la France où il était arrivé pour prendre son poste. Apprécié de ses collègues et même de ses supérieurs, son comportement manifestait cependant de brefs écarts qui remettaient brusquement en cause tout ce que l'on croyait savoir de lui. Une manière parfois de s'abstraire, de laisser sans réponse une question importante qu'on lui posait, ou de donner au contraire à une question anodine une réponse d'une gravité inattendue. Il lui arrivait aussi de disparaître plusieurs jours sans donner de signe de vie et de revenir comme si de rien n'était, rattrapant le temps perdu pour le travail, de sorte que personne n'osait lui demander de compte ni même d'interroger. Et on voit, alors au cours de ce chapitre, on voit qu'il y a quelque chose d'énigmatique, quelque chose d'un peu mystérieux. Même le narrateur, finalement, à ses amis proches, qui sont des femmes, il ne leur dit pas tout. Loin de là, hein. Il s'en va, on ne sait pas trop, elles ne savent pas où il s'en va. Il y a autour de lui no man's land.
Tout à fait, oui. Je crois que pour que ce personnage puisse, parce que c'est un roman donc à la première personne, donc le narrateur est celui qui me guide finalement. Moi, en tant que j'écris ce livre, il me guide et il m'entraîne avec lui. Et pour cela, il faut qu'il soit lui-même assez libre d'attache quelque part. Hein. Oui. Sinon, il serait pris lui-même dans un ensemble de relations ou éventuellement de contraintes. Alors, il a quand même un métier, il n'est pas complètement hors sol, mais enfin, voilà, il est assez disponible, oui. Surtout que c'est une période de vacances. Bon, voilà. Et effectivement, il faut qu'il y ait cette espèce cette incertitude, effectivement, qu'on trouve dans les deux titres, finalement, qui est celle du narrateur et qui est aussi celle de l'auteur qu'il recherche. Donc, j'ai besoin, finalement, de cette zone d'incertitude pour que le récit puisse, que l'histoire puisse se construire et avancer.
Oui, et pas. Ne pas achever les choses, pas rester dans l'incertitude. Et c'est là où je me dis, vous allez me dire si je me trompe, on retrouve quand même aussi dans le nouveau roman cette idée de presque d'insécurité, en fait, de malaise un peu.
Oui, un peu. Il y a des personnages aussi qui sont assez peu définis, malgré tout, même si celui-ci, il est plutôt un peu plus que, par exemple, dans certains précédents, je pense à un précédent roman, L'hiver en Arcadie, où le personnage qui partait au début du roman était pour le coup extrêmement indéterminé socialement. Là, j'ai un petit peu plus de détermination, en tout cas superficiellement, de métier, de lieu d'habitation, etc. Mais en réalité, oui, je pense qu'il y a une certaine manière de creuser ou d'évider les personnages que la modernité a apporté par rapport aux personnages, disons, pour faire vite, balzacien, qui était surcaractérisé à tout point de vue. Sans pour autant, en ce qui me concerne, que je veuille, comme a pu le faire le nouveau roman, détruire l'intrigue, détruire le personnage, pas du tout. Hein, mais j'ai besoin de, peut-être un peu, je citais tout à l'heure Julien Gracq, on trouve ça chez certains personnages de Julien Gracq, certaine liberté, effectivement, du personnage qui, du coup, entraîne à la fois l'écrivain et, j'espère, aussi le lecteur.
Alors, vous, tout à l'heure, vous aviez dit un mot sur l'oubli, la lutte contre l'oubli. Vous dites, à un moment donné, ainsi commençait à se peupler ce grand vide qui entourait le corps absent de l'auteur. Et vous dites aussi, tout livre de quelque valeur finit toujours par refaire surface. Et c'est vrai que sauver de l'anonymat à un livre, on peut le comprendre. Il faudrait adopter finalement des livres. Bernard Pivot avait adopté des mots, d'adopter des mots. Est-ce que c'est un besoin de se rassurer sur le rôle et peut-être l'immortalité d'un écrivain quand on écrit dans le fond? Il y a le besoin de s'exprimer sans doute, le besoin aussi des mots, le goût de l'écriture. Mais est-ce qu'il n'y a pas cette idée de se perpétuer?
Je crois qu'il y a l'idée de créer quelque chose qui existe, c'est-à-dire, qui, comme disait Claude Simon, quelque chose qui se tient. C'est-à-dire, effectivement, vous l'avez dit, je crois que c'est le travail des mots, donc... quelque chose, un objet au sens noble du terme qui est construit, qui est élaboré par le travail sur les mots et par le travail sur l'imaginaire, bien sûr. Et évidemment, à partir du moment où on construit quelque chose, je crois que de manière plus ou moins consciente, on a le désir que cette chose subsiste, puisse se maintenir dans le temps, hein, sans parler obligatoirement de grande postérité, voire d'immortalité. Nous
mais
en sommes très loin.
Je crois que
mais
tous,
l'idée
oui.
quand même que les choses tiennent. Voilà,
oui. c'est, et qu'elles voilà. soient pérennes
qu'elle
aussi,
qu'elle
on peut
pérenne,
le comprendre.
Qu'elles soient pérennes, oui. oui, tout à fait, comme je pense. Alors effectivement, de ce point de vue, la littérature, enfin les arts de manière générale, sont, enfin, nous renvoient, nous obligent à une très très grande modestie, à une très grande humilité, parce que dans tous les domaines, on voit bien comme
oui.
il y a peu d'élus pour la postérité. Mais je ne pense pas qu'on écrive directement, enfin, sauf à avoir un ego extraordinairement puissant, mais je pense pas qu'on écrive directement pour la postérité, ça n'aurait pas... Enfin, je pense qu'on écrit pour que quelque chose existe, avec ce désir, effectivement, que cette chose puisse se perpétuer quelque temps, voilà, et puis après, ça reste très vague dans l'esprit. Mais du coup, l'idée, effectivement, de l'oubli, quand même, qui est le propre, mmh. quand même, du domaine des arts, hein, qui, oui. les arts sont faits beaucoup plus d'oubli que de mémoire.
La peur de l'oubli, elle touche tout le monde, finalement.
Ça renvoie fatalement à quelque chose, quand même, enfin, c'est fatalement un peu mélancolique. Hein,
bien sûr.
Et donc, mon personnage, à un moment, effectivement, écoute dans la voiture une émission de France Culture où, où on parle
oui.
de livres, d'écrivains, et il se dit avec une ironie un petit peu amère que probablement, dans quelques décennies, la plupart d'entre eux seront oubliés, mais qu'en même temps, c'est normal. Et
alors, voilà. Il dit peut-être l'un d'eux surmonterait-il voilà. l'épreuve du temps. Et puis, cela n'avait pas d'importance.
Voilà,
et là,
voilà.
je me suis dit, il ment.
Ouais, voilà, il se ment peut-être un peu à lui-même, mais pas complètement, parce que ça rejoint ce que vous signaliez tout à l'heure, c'est-à-dire cette idée, effectivement, que cette idée de la famille, c'est-à-dire que si on prend les choses un peu différemment, c'est-à-dire dans une perspective moins personnelle, moins égotiste, à savoir, est-ce que moi, mes livres vont tenir un peu de temps ou pas, ça c'est... Mais si on prend les choses de manière plus large, c'est-à-dire, je participe en écrivant en publiant à quelque chose qui est la littérature à mon niveau et c'est bien ainsi, je pense que c'est pas complètement non plus il ne se ment pas complètement en disant ça
hein. Oui, alors là c'est vrai que c'est une forme de modestie, mais il n'empêche que pour moi dans mon idée, et je pense que d'une manière ou d'une autre, soit par ses enfants, soit par les œuvres, n'importe, c'est une manière de lutter en fait contre la mort.
Oui, bien sûr, je pense quand même que tout ce que nous réalisons dans la vie, pas simplement des livres ou des œuvres d'art, mais plus largement tout ce qui peut être construit de toutes sortes, aussi bien matériellement que dans des formes institutionnelles ou autres. Je crois que tout cela, c'est toujours une manière de lutter contre le temps, contre l'effacement, bien sûr. Oui, tout à fait.
Alors, Jean-Yves Lorichaise, je vous propose une pause musicale. On va écouter, c'est votre choix, de Theolonius. Bon, je prononce vraiment à la française, hein, peut-être même à la toulousaine. Monk, il s'agit d'un extrait de Monk's Dream, que vous connaissez bien sûr.
Thank you.
Parole d'auteur. Monique Fauché.
Voilà, désolé pour les auditeurs férus de jazz, on a été obligé d'interrompre Monk's Dream parce que ce sont des morceaux très longs la plupart du temps. On n'a pas trouvé 3 minutes, désolé.
Ça n'existe pas.
Voilà, nous retrouvons Jean-Yves Lorichesse qui a écrit un roman intitulé « Un passant incertain » édité aux maisons d'édition Le Temps qui finit.
Qu'il fait, pardon.
Oui. Et un passant incertain. Et en fait, ce livre est autour d'un livre. C'est le livre dans le livre. Hein. C'est une mise en abîme. Le titre autour d'un roman retrouvé par le narrateur qui s'appelle Le passant incertain. Et voilà, nous retrouvons donc le narrateur. Il fait donc une sorte d'enquête, mais il dit: je lui devais de ne pas le traquer comme un policier, mais de l'approcher comme un ami.
Oui.
Ça, c'est quand même assez étonnant de nos jours, mais c'est vrai, c'est tout à fait à son honneur.
C'est vrai qu'aujourd'hui, là, on est plutôt dans l'enquête policière.
Oui, absolument, et puis on va au plus profond
et voilà,
des choses.
Voilà. Oui, voilà, c'est effectivement très, très vite, à partir de la lecture de ce livre, mon narrateur se découvre une sorte d'affinité avec cet auteur dont il ne connaît rien. Et effectivement, le livre s'est écrit comme souvent mes livres, sans que je sache exactement où j'allais. Ce que je savais, c'est que mon narrateur allait partir en quête de l'identité de cet auteur, donc complètement oublié de l'histoire littéraire. Et en même temps, je n'avais pas envie que ce soit une enquête vraiment très, très méticuleuse, telle qu'on pourrait effectivement l'envisager, hein, une recherche systématique dans les archives, d'une part parce que c'est pas ce que j'avais envie d'écrire, en fait. J'avais envie que mon personnage soit beaucoup plus dans une quête plus intuitive, qu'il s'abandonne davantage au hasard, aux coïncidences, hein. Et ça correspondait mieux, de toute façon, à la relation de fascination qu'il avait avec ce livre, ce roman oublié, qui est une relation qui n'est pas rationnelle, qui donc ne pouvait pas déboucher sur une enquête policière qui, en principe, est fondée sur la rationalité.
Bien sûr. Vous parlez de quête intuitive, parce que pour retrouver l'auteur, il veut se fondre dans l'œuvre en recréant l'environnement, l'époque. Là, il dit la ville commençait à sortir de la torpeur de l'après-midi, mais insensiblement, ce début du XXe siècle n'était plus qu'une mince pellicule sous laquelle frémissait le passé. Les habits des passants, leur coiffure, leur expression même se modifiaient sous mes yeux pour prendre la couleur de ces années 30 où avait vécu Paul Monestier, ou plutôt ce noir et blanc des photos et des films de l'époque. J'avais bien conscience qu'il ne s'agissait là que d'une hallucination douce dont je ne pouvais attendre aucune découverte tangible. Pourtant, ce subterfuge m'était nécessaire pour échapper à l'emprise de la ville actuelle qui tout entière rejetait l'écrivain. C'était à moi de le rejoindre, par-delà le chassé-croisé des touristes, des ambulants et des habitants vaquant à leurs affaires. Cette nécessité de remettre en perspective...
C'est un voyage dans le temps, en fait, hein, qu'il entreprend. Bon, il va effectivement se rendre dans la petite ville du Massif central, où il a quand même pu découvrir qu'avait vécu... Paul Monestier, c'est la seule information qu'il est, mais
que vous appelez le haut pays,
voilà, que j'appelle le haut pays, voilà. Mais c'est suffisant pour qu'il puisse se rendre dans un lieu et effectivement y découvrir un certain nombre de pistes. Mais c'est immédiatement un voyage dans le temps. Alors, parce que d'abord c'est quand même un voyage dans une province, dans une petite ville, donc il y a quelque chose qui fait échapper à la surmodernité de la métropole. Bon,
un côté désuet.
Voilà, un petit peu, voilà, même si en même temps c'est justement une petite ville de province qui a suivi en même temps l'évolution. Et c'est bien justement son problème, c'est que sous cette ville qui a suivi quand même le mouvement, parce que la province n'est plus qu'elle était du temps de Balzac,
bien sûr.
Donc une province qui a suivi quand même en gros le mouvement du temps, même si c'est un peu en décalé, ce qui permet peut-être justement de se faufiler un petit peu dans le temps et de par-delà cette surface, cette apparence de modernité qui est finalement assez superficielle, de peut-être de sentir, de percevoir quelque chose de l'épaisseur du temps. Et c'est en ce sens que c'est une plongée dans le temps.
Et vous nous faites revenir, il y a un retour dans les années de guerre, et vous nous faites bien ressentir cette forme de grisaille. Pour moi, bon, qui n'ai pas connu la guerre, on a l'impression, et peut-être que les films en noir et blanc, qui ont beaucoup plus de réalité pour moi que les films en couleur, finalement, parce qu'on a cette impression de gris, de sombre, sans espoir à une époque. Hein. Et ça, à travers les descriptions que vous faites, c'est ce que l'on ressent vraiment.
Oui, parce que c'est cette ville, effectivement, en noir et blanc, que le narrateur, parce qu'il est justement dans un état de disponibilité, parce qu'il vient là, mais non pas pour enquêter effectivement, mais pour plutôt se baigner dans un certain milieu, et avec l'espoir qu'il va en surgir peut-être des rencontres et qui le conduiront à cet auteur oublié. Et du coup, il est dans cet état de disponibilité et il perçoit effectivement ce monde ancien. Parce que bon, c'est aussi une attraction personnelle pour un intérêt personnel pour cette période des années 30, des années de guerre, où justement la littérature et l'histoire, dans ce cas-là, de tragique, hein, se sont beaucoup rencontrées, heurtées, mêlées. Et dans un monde qui n'est pas si loin de nous, puisque ceux qui l'ont connu, même s'ils étaient jeunes à l'époque, sont toujours en vie. Donc il y a le lien générationnel reste fort. Et en ce sens, c'est vrai que ce livre peut-être n'est pas sans présenter quelques liens avec un autre que j'ai écrit qui s'intitule Les Pas de l'ombre, et quelque part, et qui est un livre alors plutôt de mémoire familiale autour de la figure de mon père qui a été étudiant dans les années 30 à Paris, qui a fait la guerre, etc. Et je me dis que le titre Les Pas de l'ombre pourrait aussi être le titre d'un passant incertain, et inversement, passant incertain, ça pouvait être aussi cette image de mon père que je poursuivais un peu dans ces rues de Paris des années 30.
On reviendra d'ailleurs sur le titre, parce que en fait, tout à l'heure j'ai parlé du temps, mais les lieux également, et il y a ce vieil hôtel particulier, et cette maison aux limites de la ville, et c'est vrai que là aussi, il y a une impression de silence, de froid, de quelque chose d'oublié, totalement, d'abandonné.
Oui, je pense que dans toutes
comme
les
le
villes,
livre.
Tout à fait, oui, c'est vrai, tout à fait. Je pense que dans toutes les villes, qu'elles soient grandes ou petites d'ailleurs, mais il y a des lieux comme ça qui sont effectivement à l'écart, qui sont des marges et dans lesquels on peut passer à autre chose, un peu comme dans ces histoires fantastiques où effectivement dans le décor moderne, il y a des failles, il y a tout d'un coup des portes qui s'ouvrent et on se trouve à ce moment-là dans un autre monde. Alors, bien sûr, là, on reste dans ce roman dans un contexte globalement réaliste, mais très superficiellement réaliste au bout du compte, puisque le personnage de Monestier apparaît à certains moments de manière un peu fantomatique. Donc, le fantastique n'est jamais très très loin, même si on reste dans une forme de réalité.
Oui, tout à fait, parce que même les deux personnages, le libraire et la jeune femme qui s'appelle Sabine,
sa nièce,
sont assez mystérieux, dans le fond, assez énigmatiques. Et on se dit, mais bon, ils sont là, est-ce le hasard ou est-ce une manipulation ou est-ce les porteurs d'un destin, on ne sait pas.
Enfin, ce sont des personnages qui, je crois que c'est très important, quand j'y réfléchis, vous parliez des lieux, tous les deux naissent finalement d'un lieu particulier qui est une librairie de livres anciens, alors qui est différente de celle d'ailleurs, parce que il y a deux librairies, il y a celle de la grande ville où le narrateur trouve le livre, qui est plutôt une librairie un peu de livres anciens, mais plutôt de livres d'occasion, un peu négligés d'ailleurs, un peu mal rangés, pas pas très, voilà, manifestement pas très professionnel, alors que l'autre librairie, celle du Haut Pays, est une très belle librairie de livres anciens, manifestement bon, tenue par un libraire qui est quelqu'un qui est un expert, etc. Et j'ai le sentiment que les deux personnages, le libraire mais aussi Sabine, sa nièce, sont quelque part des personnages qui naissent de ce lieu, c'est-à-dire qui naissent en fait des livres, y compris des livres anciens. Il y a un moment où
il est question... Et voilà, puis ils les font également vivre.
Voilà, et ils les font vivre en même temps.
Oui. Voilà, alors il nous reste très peu de temps, mais on pourrait parler du dernier chapitre rapidement, parce qu'on ne dévoile jamais tout.
Voilà.
De la Renaissance, intitulé La Renaissance, l'importance du mot. Parce qu'on se rend compte qu'un lecteur peut être transformé par sa lecture. On le dit, et je crois que c'est vrai. Et d'ailleurs, à un moment donné, l'ami Aude lui dit que, en fait, ça révèle qu'il pourrait être lui-même écrivain. Et alors, on va assister à quelque chose qui nous fait penser, évidemment, à Émile Ajar et Romain Gary, à un moment donné. Bon, ça, on peut le dire, finalement, une proposition de Camille, cette jeune femme qui tient tellement à faire perpétuer le livre de Monestier, elle, de demander à votre narrateur de prendre ce livre à son propre nom. Alors évidemment, il y a deux arguments. Est-ce que Paul Monestier n'est pas devenu une part de vous-même? Et puis, en même temps, on lui offre à ce Paul Monestier qui a disparu, injustement disparu selon elle, on saura pourquoi, une seconde chance.
Oui.
Hein, voilà des deux arguments.
Il y a l'idée, effectivement, bon, c'est effectivement l'aboutissement logique d'une sorte d'identification hein, du narrateur à cet écrivain fraternel. Donc, la proximité devient telle qu'il y a une forme d'identification qui légitime, finalement, cette appropriation dont il n'est pas à l'initiative, hein, mais qui lui est demandée. Et puis il y a aussi cette idée que d'un devenir écrivain, qui fait que devenir écrivain, c'est aussi prendre en charge, d'une certaine manière, la littérature du passé et la porter un peu plus loin. Et alors ça peut se faire, évidemment, généralement ça se fait d'une manière qui distingue parfaitement l'auteur de ses prédécesseurs, mais en fait pas tant que ça au bout du compte, puisque la critique et la théorie littéraire ont bien montré que finalement les textes, même les plus originaux, étaient tissés de références,
exactement,
d'allusions, de citations cachées, involontaires ou volontaires, peu importe, mais qu'en fait tout texte est tissé à partir d'autres textes. Et en ce sens-là, c'est quelque chose qui effectivement trouve ici une forme extrême et radicale et peut-être surprenante, hein, mais dans une sorte de captation. Voilà.
C'est une incarnation inespérée de ce qu'était pour moi la littérature.
Oui, je crois qu'au bout du compte, c'est la littérature qui gagne.
Voilà.
Et peut-être que l'identité individuelle de chaque écrivain est dans le fond quelque chose d'un peu secondaire, même si c'est quelque chose qui nous intéresse, qui nous fascine. Mais au bout du compte, ça nous intéresse parce qu'il y a les livres. Et c'est parce qu'il y a les livres et les romans et la poésie, etc., que nous avons un intérêt pour ceux qui les ont produits.
Voilà.
Et non pas l'inverse.
Alors, et aux lecteurs de découvrir l'intérêt qu'a Camille à faire vivre aussi, à revivre ce livre, c'est encore une partie de l'énigme. Un grand merci, Jean-Yves Lorichet.
Merci à vous.
Je rappelle à nos auditeurs qu'il s'agit d'un passant incertain aux éditions Le Temps qu'il fait. Merci.